Donc, je vais vous parler de l'ouvrage De la colère de Sénèque. Donc, je vais commencer par parler de ce philosophe. Donc, c'est un philosophe de l'Antiquité et il était le précepteur puis le conseiller de l'empereur Néron, qui l'accula au suicide en 65 après Jésus-Christ, suite à une conspiration dans laquelle Sénèque se serait compromis. Et donc, Sénèque, il professe un stoïcisme rigoureux, mais il n'hésite pas à associer des arguments qu'il trouve dans d'autres écoles, comme par exemple dans l'épicurisme. Et donc sa pensée philosophique, elle cherche surtout à trouver et à atteindre la tranquillité de l'âme. Et ses œuvres, elles reflètent souvent des préoccupations personnelles, comme par exemple la difficulté d'assumer les responsabilités du pouvoir, d'être en butte aux critiques ou même de faire face à la vieillesse. Dans son œuvre De la colère, en fait, c'est un dialogue écrit en latin où il nous propose une définition et une explication de la colère, tout en proposant des remèdes afin de l'éradiquer de l'âme du lecteur. Donc d'abord, je vais commencer par vous éclairer un peu sur la définition de la colère par Sénèque. Donc d'abord, il commence par dire que c'est à la demande de son frère aîné, donc qui s'appelait Novatus, qu'il traite des moyens de calmer la colère. Et du coup, pour convaincre son frère de l'importance de cette entreprise, il insiste sur les dangers particuliers de la colère, donc en le comparant aux autres vices et en montrant son aspect singulièrement hideux. Donc d'abord, en fait, l'ouvrage, il est composé de 3 livres. Et du coup, dans chaque livre, en fait, il va faire une définition qu'il va au fur et à mesure étoffer. Donc dans le livre 1, la colère, c'est une passion plus que toute affreuse et enragée. Donc il n'y a aucun fléau qui n'a coûté plus cher au genre humain. Et les hommes en colère ne reculent devant rien, car ils sont pris du plus redoutable des maux qui surpassent tous les vices. Donc du coup, en fait, la colère, elle soumet toutes les passions et il n'en existe aucune sur qui elle ne règne pas. Et elle n'épargne, et ça aussi c'est important, il dit que la colère, elle n'épargne aucun âge et qu'elle n'accepte aucune race et qu'elle se glisse même chez les gens éclairés et sains. Donc dans celle du livre 2, en fait, ouais, sa définition dans le livre 2, elle est plus poétique. Donc la colère, elle est comparable, il dit qu'elle est comparable aux ennemis ou aux bêtes sauvages dégoûtants de sang ou allant en verser. Elle est comparable encore aux monstres infernaux, seins de serpents et soufflant du feu. Et donc en fait, dans tout le chapitre, il ne parle que d'agitation, de pâleur, de cicatrices et de cris. Et enfin, dans le livre 3, du coup, il reprend les formules des livres précédents et il fait des comparaisons plus saisissantes. Donc comme les grincements de dents de l'homme en colère ressemblent à ceux du sanglier aiguisant ses défenses, sa tête est plus hideuse que la bête agitée par la faim ou par un fer planté dans les entrailles. Donc là, on comprend que Sénèque y tient la colère pour le pire des vices. Et en fait, ça pourrait se reformuler sous 3 formules. Ça serait que la colère est le désir de venger une injure, la colère est le désir de punir celui par qui on se croit injustement offensé, et enfin, la colère est un mouvement de l'âme dans le but de nuire à celui qui a nui ou qui a voulu nuire. Donc d'abord, qu'est-ce que la colère? Donc dans le livre 1, il dit que ce n'est pas l'irascibilité, c'est-à-dire ce n'est pas juste un emportement, puisqu'il dit: J'ai suffisamment expliqué ce que c'est que la colère. On voit comment elle se distingue de l'irascibilité. Ensuite, c'est aussi pour lui le désir de se venger, puisqu'il dit: Mais d'abord, par colère, nous entendons le désir et non la faculté de se venger. Or, on désire même ce qu'on ne peut. La définition d'Aristote n'est pas bien éloignée de la nôtre, car il dit que la colère est le désir de rendre mal pour mal. Ensuite, il parle aussi de la spécificité de la colère. Donc pour lui, c'est une caractéristique de l'être humain et en fait, il explique que les animaux ne la connaissent pas puisqu'il dit: Les bêtes ont de l'impétuosité, de la rage, de la férocité, de la fougue, mais elles ne connaissent pas plus la colère que la luxure, bien que pour certains plaisirs, elles aient moins de retenue que l'homme. Et donc pour lui, parmi les passions humaines, la colère, elle a même sa propre spécificité. Les autres passions peuvent se cacher, se nourrir en secret. La colère se fait jour et perce à travers la physionomie. Et aussi, quel est donc ici le trait distinctif? Si les autres passions se montrent, la colère éclate. Donc après ça, il va parler de l'emploi de la colère en disant que la colère sert à punir juste et qu'il s'agit d'employer sa colère dans un but du coup juste et sans blesser les autres. Le châtiment n'est-il pas souvent nécessaire? Qui en doute? Mais il le faut pur, raisonné. Alors il ne nuit pas, il guérit en paraissant nuire. Et Sénèque cite d'ailleurs Platon puisqu'il dit: Le juste, dit-il, ne blesse personne. Or, la vengeance blesse, donc elle ne sied pas au juste, non plus que la colère, dont la vengeance est fille. Ensuite, il parle de la nature foncièrement mauvaise de la colère en disant que c'est une faiblesse. Si la colère était un bien, ne serait-elle pas l'apanage de l'élite des humains? Cependant, les esprits les plus irascibles sont les enfants, les vieillards, les malades et tout être faible est naturellement querelleur. La colère, au contraire, a souvent fléchi devant la pitié, car sa force n'est que bouffissure, sans consistance ni solidité. Donc là, on voit qu'il fait une vraie critique de la colère et il va même jusqu'à dire que c'est un aveuglement. La raison n'envisage que le fond même de la question, la colère s'émeut pour des motifs puérils autant qu'étrangers à la cause. Le mal, le grand mal de la colère, c'est qu'elle ne veut pas être éclairée. La vérité elle-même l'indigne dès qu'elle éclate contre son gré. Et enfin, il va aussi terminer en disant que la colère, c'est une passion injustifiée. Ne cherchons point une excuse, une apologie pour nos comportements, pour nos emportements, pardon, en soutenant qu'ils sont ou utiles ou inévitables, car quel vice a jamais manqué d'avocat ? Ne disons pas « la colère ne guérit point ». Donc, en fait, finalement, je vais vous dire dans les grandes lignes ce qu'on peut retirer de cet ouvrage, de ce que Sénèque dit sur la colère. Donc d'abord, en fait, il va dire que la colère, elle n'est pas soumise à la passion. Donc en fait, pour lui, c'est une passion rebelle par essence, une passion du coup qui n'écoute point la raison et qui ne se laisse pas modérer. Parce que si elle écoute la raison, si elle se laisse tempérer, ce n'est pas la colère et il faut donner un autre nom au mouvement dont il s'agit. Et la colère, c'est un désir d'infliger un châtiment, mais c'est un désir effréné et indomptable, un désir aveugle et déréglé sur lequel la raison n'exerce aucune autorité. Ensuite, la colère n'est pas naturelle. Donc dans le livre 1, Sénèque, il se demande si la colère est conforme à la nature, et pour conclure qu'elle ne l'est manifestement pas, il scrute la nature de l'homme et celle de la colère, et l'opposition se révèle radicale, puisque l'homme est doux, la colère est cruelle, l'homme est affectueux, la colère haineuse, l'homme veut aider, la colère s'acharne à nuire, l'homme recherche la société, la colère la fuit. Donc en fait, la colère, elle ruine les fondements même de la vie humaine, qui repose sur la bienfaisance et la solidarité entre les hommes. Ensuite, troisième grande idée, la colère ne peut être que nuisible, car elle est conçue comme une impulsion aveugle, effrénée et indomptable. Donc c'est une impulsion sous laquelle la raison du coup n'exerce aucune autorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une impulsion que la raison ne peut contenir, et du coup elle est nuisible de toute évidence, ou au mieux inutile. Et Sénèque le dit et le répète tout au long du dialogue. Donc la colère ne peut être utile en rien. Donc le dilemme s'impose, donc ou elle n'est pas la colère, ou bien elle est inutile. Et elle serait inutile même dans les combats et les guerres, selon Sénèque, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et cette passion, elle ne contient en elle rien d'utile, mais au contraire, tous les maux, le fer et le feu. Ensuite, autre idée, c'est que la colère, c'est un vice volontaire de l'âme. Donc Sénèque, il affirme que si la colère écoute la raison, ce n'est déjà plus la colère. Et d'autre part, que si elle naît malgré nous, jamais elle ne cédera à la raison. Donc Sénèque, en fait, il distingue trois mouvements dans la colère. Donc un premier mouvement qui est involontaire et insurmontable, provoqué par l'idée d'offense. Et donc il dit que même le sage est assujetti à ce premier mouvement. Donc en fait, c'est un peu assimilable au frisson, au vertige, à la rougeur ou au dégoût. Ensuite, le second mouvement, il est volontaire et surmontable. Donc il consiste à faire le lien entre l'offense et la nécessité d'en tirer vengeance. Et du coup, associer ces deux sentiments, qu'on n'aurait pas dû être blessé et qu'on doit être vengé, ce n'est pas le fait d'un élan involontaire. Et le troisième mouvement est déjà désordonné. On veut se venger, non pas s'il le faut, mais de toute façon et à tout prix. Donc la raison est outrepassée, la colère l'entraîne avec soi, et c'est donc la colère proprement dite. Et donc la colère qui cédera à la raison à la condition de ne pas naître malgré nous, c'est la colère en son deuxième mouvement. Et les deux autres mouvements, du coup le premier et le troisième, échappent à la raison et par conséquent, ils ne peuvent pas être dits volontaires. Donc enfin, je vais essayer de vous parler un peu des remèdes qu'il donne contre la colère. Donc lui, pour lui, en fait, il faut la temporiser, mais il ne faut pas chercher à l'étouffer d'un seul coup si elle est déclenchée, puisqu'il dit « Et d'abord, il est plus facile d'expulser un mauvais principe que de le gouverner, plus facile de ne pas l'admettre que de le modérer, une fois admis. Dès qu'il a pris possession, il est plus fort que le maître, et ne connaît ni restrictions ni limites. L'âme, une fois ébranlée, jetée hors de son siège, n'obéit plus qu'à l'impulsion qui l'emporte. » Il va aussi du coup faire référence à un homme politique de son temps en disant « Par quel cruel moyen Fabius releva-t-il les forces épuisées de la République ? Il sut attendre, temporiser, toute chose dont l'homme irrité est incapable. » Enfin, il va finir par dire qu'il ne faut pas l'étouffer d'un seul coup, mais la temporiser, puisqu'il dit N'essayez pas de l'étouffer d'un seul coup, ses premiers éclats ont trop de force, la victoire complète ne s'obtient ici que par des succès partiels.
Donc voilà, j'ai choisi cette œuvre parce que je trouvais que le sujet était assez pertinent avec la situation actuelle, parce que je pense qu'on peut souvent ressentir une certaine forme de colère. Enfin, après, chacun gère la situation à sa manière, mais personnellement, je trouvais ça assez pertinent d'en parler à ce moment-là pour essayer même de mieux la comprendre, voire même mieux la gérer, je ne sais pas. Et c'est aussi parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde, parce que tout le monde l'a déjà vécu, tout le monde l'a déjà ressenti. Donc je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup de gens et c'est un sujet qui était à la portée de tous.